Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui arrivaient sur Art District pour cette nouvelle bulle d'histoire confinée. Donc c'est, je suis sur Skype avec Laurent Frédéric Bollet, qui est le co-scénariste d'un énorme album absolument génial qui s'appelle La Bombe. Son co-scénariste, c'est Alcante, et le dessinateur est Denis Rodier. C'est publié aux éditions Glénat. Alors, Laurent Frédéric, on va se vous voyer parce que c'est la radio, donc on se vous voit. Vous êtes un scénariste de bande dessinée, surtout historique, je dois dire, mais pas que. Moi, dans ma bibliothèque, il y a pas mal de choses que j'ai lues et relues avec plaisir. Il y a le Deadline, dessiné par Rossi, qui est un western très atypique et vraiment très envoûtant. Il y a Contre-coup, dessiné par Jeanne Puchol, qui raconte l'histoire de Malik Oussekine. Ça aussi, c'était un bel album, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Il y a Bruno Brasil, que vous avez repris récemment, et surtout, il y a l'énorme et titanesque histoire de l'Australie, Terra Australis, qui faisait déjà 500 pages, publiées par les éditions Glénat. Est-ce que j'ai bien résumé votre parcours ? Il en manque.
Non, bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et merci pour cette présentation sympathique. Ouais, c'est globalement ça et c'est bien ça que je mettrai aussi en avant si je puis me permettre, sans évidemment renier quoi que ce soit d'autre dans ma biographie. C'est vrai que depuis un certain temps, je divise un peu en deux ma production. Il y a la bande dessinée historique en mode roman graphique, avec une pagination élevée où je me penche sur des événements historiques forts et j'essaye un petit peu soit de les disséquer, soit de les pénétrer un petit peu en profondeur pour vraiment les analyser. Et je vous remercie vraiment d'avoir cité Contre-coup Malik Oussekine, parce que c'est un de mes albums à titre personnel préféré, où je suis persuadé d'avoir vraiment donné le meilleur de moi-même, avec un récit à la fois un peu de fiction mais en même temps qui rappelle bien ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 30 ans avec cette bavure policière que la France n'a pas oubliée. Et je me permets aussi de penser qu'on n'en a pas assez parlé, mais ça, c'est peut-être un autre débat. Bon, enfin bref, mais sinon, évidemment, grande fierté que d'avoir fait mes deux Terra Australis et Terra Doloris, et puis aujourd'hui, voilà, j'enchaîne avec ce gros pavé qu'est La Bombe, et puis l'autre versant, au passage, c'est un peu la bande dessinée qu'on aime tous, de divertissement, un peu plus classique, mainstream, et c'est vrai que ma reprise de Bruno Brasil, à ce niveau-là, est l'exemple le plus authentique, mais j'en suis très content, très fier, et puis là, c'est vraiment du plaisir de lecture et de création qui s'exprime. C'est un peu différent, mais ça fait partie de la panoplie.
On va donc parler de La Bombe. Cet album, c'est l'histoire de la bombe atomique, de ses quelques prémices en début des années 30 jusqu'en 1945 et Hiroshima. Bon, il y a quelques pages sur après, mais c'est vraiment surtout ça l'histoire. On connaît quelques albums, très peu, mais surtout du côté japonais, qui racontent ce qui s'est passé après la bombe. Donc la vie des Japonais meurtris, blessés, d'Hiroshima ravagés, notamment dans Gen d'Hiroshima, qui est un très très bel album, une très belle série. Je crois qu'il y a 8 ou 10 volumes chez Vertige Graphique, de Kenji Nakazawa. Donc il faut absolument lire ça. Il faut peut-être le lire après votre album. Mm-hmm. Alors, La Bombe, en 500 pages, vous racontez une véritable épopée scientifique et historique. D'où vous vient cette idée et comment vous êtes arrivé dans ce projet titanesque ?
Alors moi, j'avoue qu'à titre personnel, je parle souvent de saga, que c'est une saga, la saga de la bombe atomique qu'on a effectivement racontée. Et il y a tellement effectivement de choses qui sont passées en coulisses ou un peu à l'arrière du décor, avec évidemment un quotidien qu'il a bien fallu gérer, parce qu'évidemment on connaît l'histoire globale maintenant et on sait tout ce qui s'est passé et qui a abouti au 6 août 45 à l'explosion de la bombe à Hiroshima. Mais évidemment il a fallu la construire, cette histoire, et même si chacun de nous en connaît quelques pans en fonction de sa culture générale plus ou moins étendue, mais le fait est que là nous avons vraiment voulu raconter la véritable histoire de la bombe atomique. mais qui ressemble effectivement à une épopée, à une véritable saga. Alors, il faut être tout à fait honnête, l'impulsion, la première impulsion, elle vient de mon co-scénariste Alcant, qui raconte, hein, je peux le dire, dans la postface qu'il a écrit, raconte qu'il a été amené à visiter le musée d'Hiroshima, le musée de la paix à Hiroshima, qui existe toujours bien évidemment, alors qu'il avait 11 ans, et parmi les pièces du musée, il y avait 3 marches d'escalier où on voit une sorte de tache sombre, et cette tache, ben, on sait, c'est littéralement la trace d'un homme qui a été vaporisé, je vois pas d'autres mots à employer, par le souffle de l'explosion, et ça a laissé effectivement, par une sorte de réaction un peu chimique, une sorte de trace sur la marche supérieure de l'escalier. Et ça l'a évidemment un petit peu choqué, parce qu'il était vraiment enfant, et il a toujours gardé ça en mémoire, il a toujours pensé que raconter l'histoire un petit peu dans les coulisses de la bombe atomique, ça pouvait être une formidable opportunité de roman graphique, parce qu'il était devenu entre temps évidemment scénariste de bande dessinée, qu'on se connaissait bien et qu'on s'entendait très bien. Donc comme j'avais fait moi Terra Australis, où je racontais déjà en plus de 500 pages pourquoi les Anglais avaient décidé d'aller coloniser à l'autre bout du monde un territoire qui n'était pas encore très connu et qui allait devenir l'Australie, donc il y avait là une matière effectivement historique, dense, avec un côté aussi un peu épopée, avec une multitude de personnages, eh bien Didier Alcant donc m'a demandé, en vertu de mon expérience, on va dire ça comme ça, de le rejoindre sur ce projet. Et donc je suis tout à fait honnête en disant qu'effectivement c'est pas de moi l'idée de ce projet, qui m'a fourni lui-même un premier document où il avait déjà un petit peu recensé tout ce qu'on pourrait dire, que moi-même, dans un premier temps, j'ai été comme vous, les lecteurs, j'ai appris plein de choses en disant « Ah bon, mais c'est vrai ça, c'est dingue !» Et tout de suite, évidemment, j'ai pris conscience que ce sujet était exceptionnel, sans aucun doute méconnu par vraiment tous ces aspects, et que comme il y avait la perspective, puisque ça c'était il y a 5 ans, ce dont je vous parle, comme il y avait la perspective de travailler au long cours pour sortir au moment où on allait célébrer le 75e anniversaire du bombardement d'Hiroshima, donc 1945-2020, oui, je me suis lancé dans cette aventure parce que ça me semblait être un sujet imparable et absolument extraordinaire.
Alors, ce qui est extraordinaire quand on lit La Bombe, c'est qu'il y a une masse de travail et de vulgarisation, notamment scientifique et historique, qui est proprement parlé extraordinaire, puisque même les plus nuls en sciences et en physique vont apprendre des choses et vont finir par comprendre comment marche une bombe atomique. Alors évidemment, on ne peut pas la refaire dans sa cuisine, faut pas exagérer, mais en tout cas, vous arrivez à expliquer parfaitement, notamment au travers de dialogues entre les scientifiques, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'uranium-235, le 238, le plutonium, comment on met à feu tout ça. Ça a dû vous demander une masse de travail et de recherche et de compréhension extraordinaire.
Eh bien écoutez, oui, forcément, et je vais pas le nier, c'était évidemment la partie la plus problématique de notre ambition et de notre projet, car ni Didier ni moi ne sommes scientifiques à la base, et moi encore moins que Didier, qui a une formation un peu d'économiste et de mathématicien, mais alors au niveau physicien, il serait le premier à vous dire qu'il n'est pas physicien, et moi encore moins, qui suis vraiment plus un pur littéraire. Donc, nous avons lu beaucoup de documents, et heureusement que tous les documents que nous avons lus ne sont pas aussi à la base des documents destinés à des scientifiques purs et durs, donc il y a déjà des efforts de vulgarisation qui ont été faits par d'autres, donc on en a profité, ça c'est sûr. Nous avons eu 4 ans pour les digérer, pour les comprendre, pour les assimiler, et nous avons eu 4 ans pour essayer de résoudre le défi qui était de les exprimer effectivement par des bulles, par des récitatifs, par un langage de bande dessinée qui passe par du dialogue et qui passe forcément donc par un langage un peu clair et compréhensible, bien sûr, c'est le but du jeu. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'on y est arrivé vu ce que vous nous dites, et d'autres lecteurs nous l'ont dit, donc tant mieux, mais il n'y a pas d'autre explication que de se dire que nous avons dû nous-mêmes y passer par là, par cette phase de compréhension, et ensuite nous avons donc dû l'assimiler, la digérer et la retranscrire. Bon, là, c'est le métier vraiment de gens dont écrire est un peu le métier. Je vais me permettre de citer quand même Michel Decret, qui est un physicien belge et qui est un ami de Didier, et dont j'ai fait la connaissance en 2019, et qui est quelqu'un de tout à fait charmant et vraiment très pointu, et qui nous a aidés. Donc il y a certaines formulations où on comprenait On comprenait la philosophie scientifique, mais on ne savait pas si on l'exprimait bien à travers nos bulles. Michel nous a relu quand même quelques séquences et nous a souligné parfois qu'un scientifique aurait dit la chose de telle façon et pas de celle-là. Donc voilà, entre l'investissement personnel et savoir s'entourer de quelques personnes bien sympathiques, ça a fait, au bout du compte, on y est arrivé.
Oui, ça allait être une de mes questions, si des scientifiques l'avaient relu et si ça avait été validé, mais... Je connaissant votre professionnalisme, je m'en doutais, mais si en plus il valide, c'est encore plus intéressant et encore plus formidable.
Tout à fait. Nous avons donc Michel Decret, je me permets juste de les citer, Michel Decret, donc, qui nous a aidé au niveau scientifique. Franck Michelin également nous a aidé au niveau scientifique. Et nous avons eu deux contacts en permanence japonais qui nous ont guidés là aussi et décortiqué toutes les cases que nous avions envisagées pour qu'elles soient authentiques. Ça va au niveau des mobiliers dans les intérieurs japonais, aux vêtements portés par les gens à cette époque-là, au décor d'Hiroshima. Nous avons deux Japonais qui, semaine après semaine, nous envoyaient les mails pour nous dire ce qu'il fallait faire ou comment il fallait envisager une petite correction dans telle ou telle séquence. Donc, non, on a été bien entourés.
Donc là, on saute maintenant au deuxième récit de vulgarisation, qui est le récit historique. Là, sur comment tout ça s'est mis en place, comment l'idée est arrivée, comment les scientifiques se sont mis à travailler, comment il a fallu convaincre le président Roosevelt, puisque lui aussi, comme les lecteurs, ne connaissait pas vraiment la bombe atomique, mais il a fallu lui montrer l'intérêt, l'efficacité à la fois politique, j'allais dire stratégique et évidemment militaire de la bombe. Mmh. Et là, on apprend un nombre de trucs absolument incroyables sur la Seconde Guerre mondiale. Même si on connaît bien cette période, il y a des tas de choses qu'on découvre. Par exemple, que l'invasion de la Tchécoslovaquie, ou en tout cas l'annexion de la Tchécoslovaquie par Hitler, il y a des considérations politiques. Mais on découvre aussi qu'en Tchécoslovaquie, il y a la plus grande mine d'uranium d'Europe, que le Congo belge est un des enjeux, là aussi, géostratégiques, puisqu'il y a la plus grande mine d'uranium au Congo. Tout ça qui est vraiment bien décortiqué, bien mis en avant. Là aussi, vous avez le travail est monstrueux, énorme. Vous avez dû découvrir des tas de choses sur la période.
Tout à fait. En fait, les années 30, et globalement à partir de 33-35, on s'aperçoit que la communauté scientifique mondiale prend conscience qu'il y a une sorte de nouvelle réalité qui peut se faire jour, se montrer derrière ce minerai et ce matériau qui est l'uranium. Et effectivement, on a découvert en 38 la fission de l'uranium. Alors, preuve que j'ai un peu assimilé le truc, je résume en un mot, c'est que quand un noyau d'uranium est bombardé par un neutron, hein, j'ai bien dit ça, il se fissionne et il se scinde en deux. Et tout ça, ça développe en fait, en conséquence, là vraiment je résume de manière très très grandiose, ça génère une énergie qui croît en fait de manière exponentielle par rapport au fait d'effectuer un plus ou moins grand nombre de fissions. Bon, toute la communauté scientifique s'en aperçoit de ça, qu'il y a des nouvelles propriétés qui sont là, qu'on va les découvrir et que ça va engendrer des changements importants dans la connaissance de ce minerai, mais aussi de son utilisation. Bon. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, entre les savants des grandes nations occidentales, évidemment, les Français, les Italiens, les Allemands, tout ça, ça bruise de découvertes un petit peu scientifiques, et le fait qu'une guerre mondiale éclate fait qu'évidemment la donne change complètement, puisqu'on passe d'un enjeu scientifique à un enjeu politique, mais certainement militaire, et voire même de domination absolue. Et c'est donc ça toute l'histoire finalement de la bombe, à savoir qu'à un moment donné, certains pressentent plus que d'autres que ça va effectivement être la source de créer une bombe nouvelle génération absolument terrifiante, qu'on appelle nous la bombe atomique. Voilà.
Et oui, je vous coupe, mais en fait, vous décrivez la mise en marche d'une espèce de course à la bombe, parce qu'il y a les Français avec l'équipe de Joliot Curie qui est dans l'affaire, ils sont même très avancés. Il y a des Anglais, il y a des Allemands, des scientifiques allemands, même des très très grands physiciens allemands qui pressentent et qui commencent à grenouiller pour monter tout ça. Il y a même des Japonais, évidemment, il y a les Américains. Et c'est les Américains, avec leurs moyens énormes, financiers, technologiques et scientifiques, qui vont emporter le morceau. Mais il y a une course à l'armement atomique.
C'est exactement ça. Au challenge, comme j'aime à le dire, scientifique, posé par cette nouvelle propriété, en quelque sorte, de l'uranium, se superpose une sorte de course à la bombe que moi je vois de deux niveaux, bah, toujours scientifique parce qu'il y a un côté jusqu'où pourra-t-on aller dans la connaissance et chacun veut être un petit peu le premier à aller jusqu'au bout et à bien assimiler toutes les nouvelles propriétés qui vont être issues de l'uranium. Et puis bah, donc évidemment il y a une course à la bombe politique, guerrière, militaire, parce que nous sommes en guerre. Et tout ça fait qu'effectivement, ça va converger vers les États-Unis. Donc on le sait maintenant, et nous le montrons dans la bombe, les Allemands, oui, ont un programme de recherche nucléaire. Les Japonais aussi savent que ça y est, on est à la veille de découvrir un armement d'une puissance inégalable et qui peut évidemment faire pencher le sort de la guerre instantanément. Les Français, les Italiens le savent, sauf que, bon, pour eux, c'est pas forcément facile en temps de guerre. Donc, effectivement, au bout du compte, le pays qui rafle le tout, si j'ose dire, c'est les États-Unis. Ils raflent tout parce que les scientifiques, beaucoup, ont émigré aux États-Unis. Donc la matière grise se trouve aux États-Unis, pays, on va dire, libre. Le pays, évidemment, est vaste, gigantesque. On peut y construire d'immenses usines. Le pays n'est pas bombardé par des aviations ennemies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plus facile. Et puis, le pays, c'est la première économie du monde déjà. Le pays est très riche. Et le pays peut sans doute consacrer un budget de dingue à construire une bombe atomique. Bon, cela étant, on se rend compte aussi dans le livre qu'entre le moment où on alerte les autorités américaines que, attention, un bombardement nouvelle génération peut exister et que ce serait sans doute dramatique si les Allemands en disposaient avant, on va dire, le monde libre, et entre le moment où effectivement le fameux projet Manhattan dont tout le monde a entendu parler par le nom qui est célèbre, mais là on dit exactement comment c'était, et au moment donc où le projet Manhattan se met en place, il y a 3 ans pratiquement qui se passent. C'est-à-dire que moi je considère maintenant, au vu finalement même de mon propre livre, que les Américains ont perdu un temps fou en commission, sous-commission, évaluation, comité, sous-comité, deuxième réunion, troisième réunion, quatrième réunion pour essayer de voir si vraiment fallait se lancer. Alors une fois qu'ils se sont lancés, ils l'ont fait à fond. Mais il y a quand même eu pas mal de temps perdu. Mais enfin bon, on sait bien qu'à la fin, c'est bien eux qui ont gagné.
Oui, et puis vous tordez, enfin, les historiens le savent, parce qu'il y a des livres qui sont sortis, notamment un livre chez les éditions Economica, qui prouve que de toute façon, les Allemands ne pouvaient pas avoir la bombe atomique pour des tas de raisons, notamment d'organisation, d'accès à l'uranium, d'accès à l'énergie. Mais là, vous redites très clairement que les fameuses armes secrètes d'Hitler... En tout cas, la bombe atomique n'en faisait pas partie. Ils étaient très, 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 très loin d'avoir le début du commencement d'une arme atomique.
Oui, là, on en est certain. Ils y ont pensé. Ils tâtonnaient. Ils étaient aux portes d'y arriver si tout s'était bien mis en place. Mais un exemple pour accompagner effectivement le travail sur l'uranium, il a fallu que les Américains construisent une usine, mais qui est de la taille d'une ville. C'est raconté dans une séquence où le directeur militaire achète un terrain gigantesque dans le Tennessee. Et voilà, bon, bah, évidemment, en Allemagne, bombardé avec les fronts, les différents fronts, les différents mouvements des armées, il n'y avait pas des surfaces à ce point-là libres ou possibles pour y installer des usines qui allaient fonctionner jour et nuit avec des milliers d'employés. Bon voilà, ça pouvait se faire qu'aux États-Unis incontestablement.
Oui, je crois que la surface qu'il achète d'un seul coup, c'est, si je me rappelle bien, c'est 33 000 hectares. Oui. Ou 30 000 hectares. Enfin, quand on lit ça, on est sur le cul. Ils doivent déloger 400 familles. Enfin bon, mais une fois que c'est décidé, ça part vite.
C'est ça.
Alors, on va pas tout raconter parce que d'abord, c'est impossible, on n'a pas le temps. Mmh. Ensuite, il faut quand même lire la bombe. Et on va pas parler beaucoup du dessin parce qu'on parle de l'histoire, mais le dessin est absolument remarquable. Où on passe de choses très évocatrices, très presque fantastiques, avec des très belles doubles pages. Et ensuite, un dessin très fouillé, très historique, avec beaucoup de détails. Donc ça aussi, ça fait partie du plaisir de la lecture.
Il faut. Eh bien, effectivement. Donc, juste un petit mot peut-être. Donc, Denis Rodier, canadien. Il est très lisible et il a un sens de la mise en scène exceptionnel, des cadrages qui sortent de l'ordinaire et qui permettent notamment de rythmer de manière exceptionnelle beaucoup de discussions. Parce que on va pas se leurrer, on a la prétention de penser que notre livre se lit comme un roman, mais c'est pas non plus un livre de guerre. Il y a beaucoup de discussions qui se passent dans des bureaux, dans des laboratoires ou entre deux personnages qui discutent scientifiquement. Et j'ose croire que ce qui peut apparaître là comme pas très sexy, eh bien en fait se lit de manière passionnante parce que le récit par rapport à la course à la bombe l'est, et que, de toute façon, les dessins de Denis accompagnent extraordinairement cette mise en scène qui parfois est confinée, si j'ose le dire, mais qui débouche sur des décisions ô combien importantes.
Donc on a parlé donc de la science, de l'histoire, il faut qu'on parle aussi des personnages, parce que l'histoire est conduite par des personnages assez fabuleux, qui sont des vrais personnages, mais qui sont en même temps des personnages de roman. Alors il y en a un qu'il faut citer en tout premier, parce que c'est lui qui raconte l'histoire, ça c'est une astuce de scénario que j'ai trouvé vraiment, vraiment maligne, c'est l'uranium. Mm-hmm. Parce que c'est lui qui prend la parole et il est à la fois très, très vicelard, l'uranium que vous avez mis en scène, et en même temps on l'utilise, enfin c'est une espèce de diable. Comment vous avez eu l'idée de faire ça et pourquoi vous avez fait parler de l'uranium ?
Alors évidemment, quand on fait un roman graphique de plus de 450 pages, c'est évident qu'à un moment donné, les dialogues ne seront pas que des dialogues de personnages. Il faut une voix qui nous accompagne, une voix de narrateur. Donc c'est ce qu'on appelle une voix off. Et donc nous savions que nous aurions besoin d'une voix off, ça c'est sûr. Alors après, se poser la question de comment on l'a fait la voix off. Est-ce qu'on la personnifie ? Est-ce que on lui donne un rôle, un ton, etc. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que oui, parce que c'est plutôt fort et que ça permet d'avoir des phrases qui accompagnent l'action, qui peuvent avoir un petit peu de recul et avoir même peut-être un jeu littéraire, avoir des phrases bien écrites. Et donc nous avons mis notre choix sur l'uranium. Alors pas mal de gens me disent, et Stéphane, vous n'avez pas fait l'erreur, c'est malin, c'est la bombe qui parle. Non, ça n'est pas la bombe qui parle, c'est l'uranium, effectivement. Et c'est pas pareil. La bombe, on va dire que c'est l'objet fatal. L'uranium, c'est le carburant de la bombe. Et en quelque sorte, c'est le noyau de la bombe. C'est l'élément primordial. C'est la matière première. Et donc, c'est différent. Parce que là, on voit bien que ça devient tout de suite, ça part, cet uranium, d'un rôle qui est vraiment très important. Un rôle actif, là où l'enveloppe d'une bombe peut-être n'est qu'une enveloppe justement. Donc l'uranium, eh bien, c'est un minerai présent dans la Terre depuis la création de la Terre et voire du cosmos. Donc écoutez, ça nous a donné l'idée d'en faire un personnage titanesque qui regarde les hommes tels des fourmis, qui sait que son heure va venir, qui sait qu'il a en réserve une puissance considérable et qu'il faut juste bien l'utiliser, et qui regarde donc avec un peu de cynisme comment les hommes s'agitent pour essayer de le domestiquer, mais tout en le faisant sûr de sa force. Alors voilà, c'est un parti pris, mais nous estimons qu'une bombe atomique, parce qu'on sait bien que donc c'est un éclair qui soudain explose et qui tue instantanément 70 000 personnes. C'est ça qui s'est passé à Hiroshima le 6 août 1945 à 8h15 heure locale. En un dixième de seconde, 70 000 personnes meurent et une ville est rasée. Donc c'est une puissance hallucinante, il n'y a pas d'autre mot. Donc nous avons essayé d'aller à fond dans cette notion épouvantable, si j'ose dire. Et donc voilà pourquoi l'uranium est un personnage qui parle et qui est très spécial, oui.
Alors on va parler des vrais personnages. Il y a des personnages dont je veux pas parler parce qu'il faut pas les dévoiler, parce qu'ils sont très très beaux et ils ont une grande importance. C'est des personnages japonais de l'histoire. Mm-hmm. Ça, c'est surprenant et voilà, ça c'est le côté très sensible de l'histoire de la bombe. Du côté moins sensible, mais qui conduit vraiment l'action, il y a les Américains et les scientifiques. On va faire une petite galerie de portraits rapide, parce qu'il y a des personnages qu'on connaît pas, d'autres qu'on connaît un peu, en tout cas on connaît leur nom. Moi j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va les passer vite fait en revue. Le premier, c'est le général Groves, qui est un militaire, un ingénieur, qui va se retrouver patron du projet Manhattan, donc qui va diriger le projet qui conduit à la bombe atomique. Donc c'est lui qui achète les 30 000 hectares de terrain, mais il s'occupe non seulement de faire construire la bombe, mais il s'occupe aussi d'asphalter les routes, de trouver des femmes de ménage aux femmes de scientifiques. Enfin, c'est un personnage très étonnant. Est-ce que vous pouvez nous parler du général Groves ?
Alors là, je crois qu'effectivement, c'est un personnage qui a sombré un petit peu dans les oubliettes de l'histoire. Évidemment, tous les spécialistes de cette période connaissent son existence, mais enfin là, je crois qu'effectivement, on le montre au grand public. Donc le général Leslie Groves est le général qui est nommé à la tête du projet Manhattan, parce que une fois que scientifiquement, on avait bien montré qu'on pouvait construire une bombe atomique, eh ben, il fallait que le politique, et ça c'est au niveau de la Maison-Blanche, le décide. Mais après, c'est pas des civils qui vont gérer ça. Vous doutez bien que là, tout de suite, le complexe militaro-industriel, et j'en j'emploie vraiment cette expression qui parfois est source de légende urbaine, mais à dessein, puisque c'est exactement ça quand même, le complexe militaro-industriel reprend la main, et donc il y a forcément un militaire qui est nommé à la tête de ce projet. Donc c'est le général Groves qui est en hérite, et c'est donc un personnage avec une personnalité assez étonnante. C'est le militaire borné, zélé dans toute sa splendeur, donc celui que certainement tout le monde aurait envie de détester, l'aboyeur en chef, qui commande certainement en aboyant donc sur ses subalternes, qui décide de manière impérieuse les choses, et puis bah qui va au bout à fond sans aucun état d'âme et certainement aucune interrogation morale. Bon bah voilà, j'ose dire maintenant que il fallait sans doute que le projet Manhattan ait ce genre de personnage à sa tête pour que tout soit bien géré. Il achète les 30 000 hectares d'un coup, mais il est aussi le premier qui achète les 1000 tonnes d'uranium que les Belges, parce que c'était une mine, cet uranium venait d'une mine du haut Katanga, donc dans le ce qu'on appelle le Congo belge. Et donc, ces 1000 tonnes d'uranium avaient été mises, on va dire, à l'abri à New York. Et ça végétait. Le gouvernement américain n'avait pas du tout compris que ça pouvait être important pour développer une bombe atomique. Bon, bah, le général Groves, dès qu'il est nommé, il se dit, mais c'est incroyable, il faut vite absolument acheter cet uranium pour que, un, déjà, personne d'autre ne l'achète, et en plus, que c'est ça qui va nous permettre de développer la bombe. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été un homme de décision, ça c'est sûr. Et c'est évident, malgré toute l'antipathie que peut avoir ce personnage, ou qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce personnage, que sans lui, certainement, le projet américain du projet Manhattan n'aurait pas été jusqu'à son terme.
Second personnage très important dans l'histoire, c'est Robert Oppenheimer, donc un grand physicien, qui n'a pas eu le prix Nobel, d'ailleurs, c'est contrairement à pas mal de ses collègues qui ont travaillé sur la bombe atomique. C'est lui le metteur en scène, le metteur en énergie de tous les chercheurs qui travaillent dessus. Là aussi, c'est un personnage étonnant. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa première apparition dans l'histoire? Ah oui. Et il va se faire engueuler par le général Groves, d'ailleurs.
Oui, ah non, mais moi j'ai un faible aussi pour Robert Oppenheimer. Bon, je peux révéler, si vous me permettez, que c'est moi qui ai écrit, je crois, la totalité de ces scènes, parce que j'avais dit à Didier, ce personnage il me fascine, je voudrais vraiment que ce soit moi le premier qui écrive ces scènes, et donc quand on s'est réparti les séquences, j'ai hérité d'Oppenheimer. Oui, un personnage considéré sans doute à l'époque comme l'homme le plus intelligent du monde, mais qui n'a pas été couronné effectivement d'un prix Nobel, mais qui a une autorité scientifique exceptionnelle, et qui est donc le pendant du général Groves, mais côté scientifique. L'un est le directeur militaire du projet Manhattan, et l'autre est le directeur scientifique. Et c'est lui qui, en quelque sorte, est le professeur en chef qui essaye de gérer les centaines de scientifiques qui sont regroupés dans le village artificiel de Los Alamos, et qui essaye donc de mettre au point la bombe atomique. Parce qu'évidemment, il y a des milliers de problèmes qui se posent. Alors, Oppenheimer, c'est une personnalité un peu incroyable, mystique, un peu torturée, soumis à de la dépression, à des troubles un peu psychologiques même, n'ayons pas peur de le dire. Enfin bref, une personnalité assez insaisissable, et qui, lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la bombe, vient de passer une nuit qu'on espère agréable avec une femme, dans un motel, sauf que cette femme n'est pas sa femme officielle, mais c'est sa maîtresse, et qu'en quelque sorte, c'est une ancienne élève, et qu'il lui offre en quelque sorte une sorte de dernière nuit ensemble, avant de ne plus jamais la revoir, en quelque sorte. Bon. Donc, il y a un aspect très humain dans cette histoire. Mais pourquoi nous avons choisi de la raconter? C'est aussi parce qu'évidemment qu'à ce moment-là, Robert Oppenheimer, qui est pressenti pour être le directeur scientifique du projet Manhattan et avoir toutes les accréditations, à ce moment-là, il n'a pas toutes les accréditations en poche, est surveillé par le général Groves, qui envoie des militaires pour voir ce qu'il fait en fait dans ses journées, le professeur Oppenheimer. Donc, on est là dans une sorte de récit incroyable, quoi. Vous avez déjà une sorte de FBI avant l'heure qui surveille des personnes, qui fait des rapports, et Robert Oppenheimer n'échappe pas à cette règle. Donc, quand le général Groves lui dit quelques jours après, je sais très bien que vous avez passé la nuit avec votre maîtresse et que c'est hors de question que vous travaillez pour moi dans ces conditions, Oppenheimer comprend qu'effectivement, à un moment donné, il faut peut-être arrêter une vie un peu dissolue et il faut se concentrer sur le projet. Et il le fait. Et l'entente entre les deux, pour moi, est peut-être la clé de cette histoire. Entre deux personnages aussi différents l'un de l'autre, qui ont su quand même se trouver, s'apprécier et travailler ensemble, entre un militaire obtus et un scientifique un petit peu fantasque, ça a marché.
Oui, parce que pour revenir sur le général Groves, il fait surveiller tout le monde. Il écoute les conversations, oui. Il ouvre les courriers, il fait suivre par des agents. Enfin, ça aussi, c'est un truc, même si quand on réfléchit deux secondes, il y a une sorte de logique, parce qu'on est dans un projet tellement secret, tellement important, qu'il faut que rien ne fuite. Mais il le fait quand même, et les scientifiques s'en aperçoivent, ils en jouent, ils essayent d'y échapper, et il y a tout ça aussi dans l'histoire de la bombe.
Voilà, c'est vrai qu'on peut se dire que oui, sans doute, fallait-il un peu serrer la vis à ce niveau-là pour que ça reste confidentiel et que ça reste un projet top secret, ce qu'il était bien. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que quand Harry Truman devient président des États-Unis le 12 avril 45, parce que Roosevelt vient subitement de mourir le matin même, hein, c'est comme ça que ça se passe, donc l'après-midi même, le vice-président prête serment et devient le président des États-Unis, c'est là seulement que Truman apprend que le projet Manhattan existe. Donc même le vice-président des États-Unis n'est pas au courant. Donc ça prouve que c'était bien en mode secret. Mais c'est vrai que quand on voit les mesures prises par Groves de censure ou de surveillance, les panneaux qui sont affiché dans tout Los Alamos et qui dit de manière un peu ridicule « Ne parlez pas même à vos femmes ». Enfin bon, c'est vrai qu'on se dit « Mais c'est grotesque ». Et pourtant, bon, ça a été fait comme ça, parce que à ce moment-là, il y avait forcément une sorte de paranoïa qui existait et que c'était peut-être à ce prix-là.
Et pourtant, il y avait un espion à Los Alamos, un espion de Staline, un Américain,
oui.
D'origine allemande, à mon avis, Klaus Fuchs.
Oui.
Celui-là, il est passé à travers les gouttes, parce qu'il a réussi à transmettre aux Russes, en tout cas à l'URSS, des secrets atomiques. Donc là, le général Groves a pas tout réussi, là, de ce point de vue-là.
Non, effectivement, cette histoire aussi incroyable, Klaus Fuchs, espion à Los Alamos, c'est un fait historique. Ça veut bien dire qu'effectivement, comme dans toute organisation ou tout système, à un moment donné, il y a forcément un grain de sable. Bah là, c'est qu'effectivement, par conviction politique, car là, on aborde peut-être une thématique qu'on a essayé de développer aussi dans la bombe, à savoir que on sait qu'on va fabriquer une bombe atomique qui est capable de détruire une ville en une seconde, mais plus ça avance et plus peut-être effectivement la perspective de gagner la guerre approche, plus certains se disent mais ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on fait bien de le faire. Et Klaus Fuchs donc représente ce côté où certains scientifiques sont contre ce projet finalement, même s'ils y participent, et donc estiment que le monde doit savoir, que le monde ne peut pas être aussi déséquilibré et qu'il n'y a pas que les Américains qui doivent l'avoir. Donc il y a un espion russe à Los Alamos, et c'est ce qu'on appelle la Residentura, hein, qui s'est bien organisée aux États-Unis pour avoir les rapports de Fuchs qui arrive à sortir de Los Alamos et à donner des papiers ou des photographies à un contact. Et donc effectivement, Staline, c'est ça l'ironie de l'histoire, Staline savait avant Truman, le futur président américain, qu'une bombe atomique était en train d'être préparée aux États-Unis.
On va finir sur les personnages avec Léo Szilard, qui est un scientifique d'origine hongroise, et on rejoint un peu la position de Fuchs. Léo Szilard, c'est un très grand physicien qui s'échappe d'Allemagne parce qu'il est d'origine juive. Il va commencer à travailler aux États-Unis sur le projet de la bombe. Et à partir du moment où il découvre que la réaction en chaîne est possible et que donc la bombe va être possible, il fait une sorte de tour à 180 degrés et il devient l'opposé numéro un au projet Manhattan. Tout en restant américain, tout en restant très fidèle aux États-Unis, tout en ne trahissant pas. C'est aussi un très beau personnage, ce Léo Szilard.
Je pourrais en parler des heures, Stéphane, donc il faudra m'arrêter. C'est le personnage fétiche de Didier Alcante, mon co-scénariste, qui lui a bien mis en scène Léo Szilard dans toutes les scènes qui le concernent. Alors, Léo Szilard, c'est un scientifique aussi de renommée mondiale, d'origine hongroise, qui effectivement quitte Berlin en 33, au vu de la montée du nazisme, qui se réfugie dans un premier temps en Angleterre et qui ensuite donc arrive comme beaucoup aux États-Unis. C'est lui le premier qui théorise et qui a l'intuition de la réaction en chaîne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un petit cours rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure du noyau d'uranium qui est bombardé par un neutron et qui se fissionne. Ça, c'est la fission de l'uranium. Mais après, il y a une deuxième composante qui arrive, c'est la réaction en chaîne. Car lorsqu'il se fissionne, le noyau d'uranium libère un ou plusieurs neutrons, qui sont appelés des neutrons secondaires, à la différence du premier, et qui à leur tour vont fissionner d'autres noyaux, et ça libère une énorme quantité d'énergie. Alors évidemment, le nom de réaction en chaîne est très compréhensible, on comprend qu'effectivement c'est ça. Mine de rien, avant Léo Szilard, personne n'y avait songé, personne n'avait eu l'intuition que ça arriverait par rapport aux propriétés propres de l'uranium. Donc, Léo Szilard est le premier qui comprend qu'une bombe atomique peut être fabriquée et que celle-ci va être terrible et qu'elle va décider du sort de la guerre. Il n'a qu'une angoisse instantanément en 1939. La guerre vient de commencer, les Allemands envahissent un petit peu tout, que justement ce soit les Allemands qui les premiers aillent au bout du process et donc fabriquent cette bombe atomique. Donc son œuvre va être de dire aux États-Unis, vous devez absolument construire une bombe atomique, car imaginez que ce soit les Allemands qui l'aient la première. Donc c'est lui qui initie tout ce mouvement, qui commence par Einstein, figurez-vous, qui écrit une lettre au président des États-Unis, et tout ça, ça va un petit peu servir de déclencheur, de lanceur d'alerte, même si je veux dire un mot moderne. Et au bout du compte, donc, on va créer le projet Manhattan. Donc Léo Szilard, dans un premier temps, a réussi, il a sensibilisé les autorités américaines qui ont bien pris conscience qu'il fallait absolument être les premiers à construire la bombe atomique. Sauf que plus les années passent, et plus Léo Szilard se rend compte que il n'y a que les États-Unis qui peuvent la faire, et que du coup, on en arrive bien à une situation de déséquilibre total. Est-ce que c'est bien, pour résumer, qu'un pays, et seul un pays, ait la bombe atomique et en plus l'utilise et tue donc des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes? Léo Szilard, donc, va tout faire pour que la bombe atomique ne soit pas utilisée. Car il faut savoir que jusqu'au dernier jour précédent, le 6 août 45, on s'agite en coulisses pour se demander s'il faut vraiment l'utiliser, si les Japonais ne vont pas de toute façon capituler sans utilisation de la bombe atomique. Il y a tout un débat en coulisses et on le montre bien dans la bombe. Donc vous voyez, Léo Szilard est un personnage paradoxal, absolument fascinant, qui a tout fait pour qu'on construise la bombe atomique et qui ensuite a tout fait pour qu'on ne l'utilise pas.
Bon, à sa suite, il faut dire qu'il y a beaucoup de scientifiques, y compris Robert Oppenheimer, qui, une fois que la bombe a explosé, se rendent compte de la puissance et du pouvoir extraordinaire de cette bombe et qui vont faire machine arrière. Certains vont même regretter de l'avoir fait, quoi. C'est une chose importante que vous expliquez à la fin du livre.
Tout à fait. Ben voilà, le 16 juillet 1945, donc on va dire trois semaines avant le 6 août, la première bombe atomique de l'histoire explose. C'est donc un essai test qu'on appelle l'essai Trinity. Et là, effectivement, tout le monde est soufflé au sens propre comme au sens figuré. Et tout le monde se rend bien compte que, ah oui, c'est même encore plus fort que ce qu'on croyait. On découvre qu'il y a un champignon atomique, mais ça c'est pour la forme. Mais ça, on le savait même pas avant qu'il y allait y avoir un champignon atomique. Mais on découvre qu'effectivement, la puissance au sol, la puissance de destruction est monstrueuse, quoi. Bon. Donc là, certains ont pris conscience, et Robert Oppenheimer aussi, que oui, on avait franchi certainement une frontière par rapport à l'histoire de l'humanité. Et donc, du coup, toutes ces questions d'utilisation dans un premier temps, puis ensuite de dissuasion nucléaire, d'équilibre des forces, et surtout de non-utilisation, bien évidemment, à occuper l'humanité, jusqu'encore maintenant, avec tout ce qui se passe du côté de l'Iran, on en parle toujours.
Alors, pour finir sur les personnages, il faut qu'on parle d'un groupe de gens. Moi, je dois dire que j'ai totalement découvert cette chose, qui est une chose abominable, qui sont les Human Products, les HP, il y en a 18. Avant de parler d'eux, il faut dire que les scientifiques, donc jusqu'en 45, 46, 47 et un peu après, ne savent pas quels sont les effets de la bombe atomique. Ils ne savent pas trop ce que font les radiations, ce que fait le plutonium, ils nagent complètement. D'ailleurs, j'ai vu rapidement, ils meurent tous d'un cancer quasiment dans les années qui suivent.
Oui.
Personne ne sait rien de rien, et pour essayer de savoir, ils vont prendre des cobayes humains et ils vont leur injecter notamment du plutonium et j'imagine différents produits pour voir un peu ce que ça fait. Donc il y en a beaucoup qui vont évidemment mourir. Et c'est abominable cette histoire. Comment vous avez découvert l'existence de ces produits humains ?
Eh bien, c'est le formidable travail de recherche préparatoire qu'avait effectué Didier Alcante, dans son premier mémo, lorsqu'il me le transmet pour savoir si ça m'intéresse de le rejoindre sur ce projet, évoque effectivement cette question des HP, Human Products. Donc moi, je suis aussi le premier à lui dire, mais attends, mais c'est vrai. Donc, comme il se documentait depuis bien longtemps sur ce sujet, il m'assure que oui, tout à fait, mais qu'il n'a pas lu le livre, qu'il y a un livre qui fait référence, qu'il ne l'a pas lu, que c'est un livre américain, etc. Je lui dis, bon, écoute, moi, ça m'intéresse de m'occuper aussi de ces scènes-là. Et donc, je m'en suis effectivement penché, je me suis penché sur le sujet, et j'ai donc évidemment acheté et lu le livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Aileen Welsom, qui a mené son enquête à la fin des années 1990, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Pulitzer, et ça semble tout à fait mérité. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle The Plutonium Files, où elle raconte toute l'histoire. Donc, tout est parti d'un incident de laboratoire à Los Alamos où une fiole s'est cassée, manipulée par un scientifique, et du plutonium s'en est échappé. Alors du plutonium, c'est l'autre composant aussi important que l'uranium, mais le plutonium, par exemple la bombe de Nagasaki, c'est une bombe au plutonium, hein, voyez, alors que la bombe d'Hiroshima est une bombe à l'uranium. Mais le plutonium vient globalement de l'uranium. Donc c'était une sorte de procédé secondaire, mais enfin bref, ça faisait partie des recherches primordiales à Los Alamos, et donc ce plutonium s'est échappé de la fiole cassée, et le médecin, le scientifique était persuadé d'en avoir ingéré. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'on était parti à fond sur toutes les expériences possibles, mais qu'effectivement, s'il y avait des incidents, entre guillemets, on ne savait pas quelles allaient être les conséquences, d'abord pour le personnel de Los Alamos. L'interrogation première, elle vient sur le danger du personnel scientifique qui est en train de manipuler toutes ces substances. Donc, ils se disent, ah, on ne sait même pas quelles pourraient être les conséquences sur notre propre personnel. Bon, donc, bah, je vous le donne en mille, quel est le meilleur moyen d'essayer d'en savoir un petit peu plus, bah, c'est de prendre des cobayes. Alors j'emploie le terme de manière évidemment brutale, mais je vois pas d'autres termes à employer. Donc on s'est dit, bah, on va injecter du plutonium à des cobayes. Alors ces cobayes, évidemment, on les a pas pris du côté scientifique. On les a pris du côté de pauvres personnes. Et en l'occurrence, le premier d'entre eux, c'est un ouvrier d'un des chantiers du projet Manhattan qui a un accident de voiture en se rendant sur son lieu de travail et qui se retrouve à l'hôpital avec des fractures et bien mal en point. Et à qui on va dire, bah tiens, on va lui injecter du plutonium à son insu. Et comme ça, bon bah, on sera pas obligé de le lui dire, quoi, littéralement. Donc c'est assez affreux. Et donc ils ont été pendant 2 ans, 18 comme ça, des accidentés ou des gens qui avaient des cancers, mais des gens de la vie civile, mais qui avaient tous un peu un lien avec des hôpitaux un peu militaires, etc., et qu'on a sélectionné pour qu'on leur, par piqûre, pour qu'on leur donc injecte de l'uranium dans leur corps. Et on leur demandait de venir régulièrement à l'hôpital pour faire des prises de sang, tout ça, pour voir quelle était la nature du plutonium, comment il se diffusait dans le corps et quelles pouvaient être les conséquences. Alors, ça les a pas tués, faut être honnête, ça les a pas tués instantanément. Certains ont vécu beaucoup d'années après. Le fait est que c'est un authentique scandale absolu, puisque donc on a injecté du plutonium à l'insu de personnes qui n'ont jamais été informées, qui ne le savaient pas et dont on ne connaissait certainement pas les conséquences. Alors évidemment, c'était en temps de guerre, la fin justifie sans doute les moyens, mais vous voyez, tel que je vous l'exprime, effectivement, maintenant on se dit, mais c'est insensé. Et il a fallu attendre donc la fin de l'ère Clinton pour que Bill Clinton, président des États-Unis, donc au nom de l'État américain, s'excuse et qu'il y a eu effectivement des négociations avec les familles de toutes ces 18 personnes qui ont reçu des compensations financières. Mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça a duré 50 ans et c'est vraiment un scandale.
Oui, il y a même un pauvre gars dont on a diagnostiqué un cancer, il n'avait plus que 3 mois à vivre. On lui a fait des horreurs et au bout du compte, il n'avait qu'un, je crois, un ulcère à l'estomac.
Enfin, un ulcère. C'est ça, on s'était même trompé. Oui, oui, c'est ça. Donc on l'a bourré de plutonium, mais en fait, c'était pas si grave que ça. Et puis, bah, c'est surtout, quoi, je vous dis, on lui a pas dit. Hein. Au fait, on vous a mis du plutonium, ça vous intéresse de participer à cette expérience? À la rigueur, on peut se dire, on aurait pu au moins leur dire ça comme ça. Ben non, pas du tout. Ah oui, non, c'est terrible cette histoire.
Laurent Frédéric, merci beaucoup. On s'est pas tout dit parce que 400 pages, c'est beaucoup. On s'est dit beaucoup de choses sur la bombe. Je voudrais pour finir parler un peu de l'écriture de votre récit, parce que même si on connaît le début, on l'a un peu raconté, et surtout on connaît la fin, donc Hiroshima, Nagasaki, les deux grandes explosions et des dizaines de milliers de morts sur le sol japonais, même si on connaît le début et la fin, vous arrivez quand même à nous embarquer dans un vrai thriller. C'est-à-dire que chaque petit rouage du projet Manhattan, chaque petite négociation devient un suspense. On se dit, mais bon sang, comment vont-ils y arriver?
Eh ben, c'est gentil, merci. Bah écoutez, je crois qu'on est aidé de fait par la matière, par ces faits historiques parfois méconnus mais qui ont existé et qui, mis bout à bout, amassés les uns après les autres, nous ont fourni une histoire extraordinaire. Donc notre mérite, je pense, c'est d'avoir voulu surtout se pencher sur le sujet, de ne pas avoir mégoté sur notre temps et notre motivation pour essayer de tout savoir. Car il était hors de question, et là je le dis avec un minimum d'orgueil, il était hors de question qu'on se loupe ou qu'on se trompe. Donc théoriquement tout est authentique et tout est imparable. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait venir vraiment nous pinailler sur des dates ou sur des faits, parce que tout est vérifié, contre-vérifié, triplement vérifié. À partir de là, je crois que nous sommes dans une course à la bombe, on a employé l'expression tout à l'heure, et de fait, même si nous connaissons tous la fin du film, bah, on se laisse prendre au jeu parce qu'effectivement, cette course, nous la voyons s'opérer devant nous et qu'elle est racontée chronologiquement. Le livre de la bombe se passe, effectivement, il n'y a pas de flashback ou de flash forward, comme on dit, c'est chronologique. C'est pratiquement même, plus ça va, même plus c'est au jour le jour. Donc effectivement, je crois que cette méthode, qui n'a rien d'exceptionnel hein, pour un récit, mais que nous avons employé, cette méthode porte ses fruits, parce qu'effectivement, bah, on se surprend à avoir des questionnements du genre, mais vont-ils y arriver vraiment? On le sait, mais on se pose la question, comment vont-ils faire? Et puis, je crois qu'il y a une empathie qui se dégage, évidemment, par rapport aux personnages japonais, qui sont un peu notre licence littéraire. Donc, nous avons créé, pour vous le dire, une famille japonaise qui est symbolique d'une famille japonaise d'Hiroshima et qui va donc être détruite, évidemment, par le feu au final. Mais bon, je pense que ça donne un contrepoint, déjà, parce que l'histoire est globalement américaine. Donc là, ça donne un contrepoint intéressant à Hiroshima même. Ça permet d'avoir d'autres façons de mettre en scène des personnages, parce que les attitudes sont pas les mêmes. Les façons de vivre sont pas les mêmes. Et du coup, tout ça mis bout à bout, ben, j'ose effectivement croire, au vu de tout ce qu'on nous dit de la part de tous les lecteurs et tous les libraires et tous les critiques, que ça fonctionne parce que ben, nous avons été nous-mêmes portés par le sujet et que ça se sent et que nous étions à fond dedans et que le plaisir de la lecture est issu de l'investissement de l'écriture.
Puis je veux aussi dire un mot de l'éditeur, parce que je trouve que c'est un travail d'éditeur qui est quand même assez remarquable. Mm-hmm. Même si Glénat est un très gros éditeur, il faut quand même le faire, il faut quand même le mettre en route, il faut aller jusqu'au bout de ces 400 et quelques pages sur la bombe atomique. Voilà, on rend rarement hommage aux éditeurs, mais là je dois dire que faut le faire, quoi.
Oui, on peut le faire d'autant plus que je vais vous livrer une petite anecdote qui a valeur de démonstration absolue de ce que vous venez de dire. Glénat croyait tellement en ce livre qu'ils nous ont financé un voyage d'une semaine d'études et de documentation à Hiroshima pour les trois auteurs. Vous voyez, un geste qui sort de l'ordinaire. Alors, il se trouve que moi, donc Didier avait déjà été à Hiroshima quand il était jeune. Moi, j'y avais été en 2017 à titre personnel. Mais quand on apprend que l'éditeur vous offre le billet d'avion et une semaine sur place, les trois auteurs, dont l'un qui vient du Canada, pour effectivement s'imprégner de l'atmosphère, pour assister aux commémorations du 6 août qui ont lieu chaque année. Donc là, nous étions en 2018. Et pour qu'on essaye d'aller, évidemment, se documenter sur place et avoir, oui, comme ça, un repérage grandeur nature, oui, ça n'a pas de prix. Donc là, chapeau à l'éditeur, et évidemment, moi je travaille depuis de nombreuses années avec Glénat, et je ne peux que dire, oui, c'est vrai que pour moi, c'est une famille, hein, l'éditeur Glénat, oui, c'est vraiment là quelqu'un qui a été avec nous sur ce projet depuis le début, et vraiment merci à eux.
Eh bien, Laurent Frédéric, je vous remercie pour ces quelques minutes, parce qu'une heure, c'est pas beaucoup pour parler de la bombe, mais c'est déjà une belle heure. Voilà, je vous remercie, et puis à bientôt. Et puis, dès qu'on est déconfiné, il faut se précipiter vite, vite, vite pour acheter la bombe et se mettre à lire.
Oui, merci Stéphane, merci à vous tous. Écoutez, c'est sûr qu'on est sorti 15 jours avant le confinement français, mais bon, toute l'Europe maintenant est un peu dans le même cas de figure. Alors c'est sûr que ça nous fait venir des pensées un petit peu confuses. On se dit, est-ce qu'on est maudit ou est-ce qu'au contraire on était déjà sorti, on avait déjà pu voir que ce livre peut-être était important. Écoutez, en tout cas, c'est comme ça. Ça fait peut-être même partie de l'histoire de ce livre maintenant que le confinement en aura fait partie. Mais je crois honnêtement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont bien vu, qui l'ont bien noté et qui, une fois qu'on pourra enfin relire et acheter des livres, voudront en savoir un petit peu plus. Et évidemment, à tous ceux-là, je les remercie par avance. Je les en remercie par avance.
Et je vous redis avec grand plaisir, à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. Thank you.